Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez le 8e numéro de La Casa de Babel, 8e et dernier de cette année 2018. Nous reviendrons évidemment en 2019 avec encore plus de reportages de la part de nos reporters en herbe qui sont maintenant des reporters aguerris, on peut le dire, parce que après 7 numéros, maintenant 8, on en est maintenant peut-être à 30-35 reportages. Et je suis vraiment content d'avoir pu animer cette émission pour 2018. Et c'est pas fini, bien évidemment, puisque l'année académique et donc les échanges Erasmus continuent jusqu'à mai 2019. Aujourd'hui, nous n'aurons que 3 reportages, mais ces 3 reportages suffiront amplement à vous faire voyager. Nous ferons un aller-retour, ou un tour de la planète, selon le sens où vous le prenez. Nous commencerons à Bogota, avec Camille Bouju, qui nous parlera de la légende de l'Eldorado, que vous connaissez forcément sans la connaître réellement. Nous irons ensuite en Israël, à Tel Aviv, où Noah Moulinet nous décrit la vie cachère sur place. Et enfin, nous retournerons en Amérique latine, en Argentine plus précisément, avec Zoé Boahom, qui nous parlera du mouvement en faveur de l'avortement dans le pays. Nous allons donc lancer le premier reportage de suite, et partir à la recherche des trésors perdus de l'Eldorado en Colombie. Camille Bouju pour Cause Commune.
À l'approche des fêtes de fin d'année,
des histoires merveilleuses et fantastiques, je vais vous parler d'une légende qui fait rêver depuis quelques siècles et qui ne cesse d'en inspirer plus d'un. L'Eldorado, légende, réalité, qu'en est-il vraiment de cette terre d'or promise par les colons? A-t-elle vraiment existé? D'où vient cette histoire et pourquoi continue-t-elle autant de fasciner? Aujourd'hui, je vous propose de vous conter la vérité sur ce mythe, ou du moins, ce qu'il s'en sait. Un voyage dans le temps et dans l'imaginaire. Mais avant ça, je suis allée voir ce que les Colombiens eux-mêmes en savent, ou pensent savoir.
Donc, sur la légende d'El Dorado, je connais pas vraiment sur quoi elle part, mais je suppose qu'il doit y avoir avec la découverte de l'Amérique. Et je sais pas si... Je me rappelle d'une histoire qui racontait qu'il y avait une rivière qui avait de l'or et les indigènes aller se baigner là-bas. Et donc, quand les Espagnols sont arrivés ici, ils allaient dans cette rivière pour chercher de l'or. Mais je sais pas, je suppose que c'est ça.
Oui, c'est super difficile.
Je sais vraiment rien sur cette histoire. Je sais que les Espagnols, quand ils sont arrivés, ils avaient une espèce de légende qui disait qu'il existait une ville totalement d'or. Et que c'est pour ça qu'ils ont commencé à la chercher comme des fous. Mais ils n'ont jamais rien trouvé. Et quoi de plus? Je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée, mais je ne me souviens pas bien. Quelque chose comme quoi les Indiens racontaient une légende aux Espagnols pour qu'ils aillent se perdre dans la jungle en cherchant.
Ben, je sais que c'est une légende genre d'une ville perdue, un truc comme ça, où personne n'a trouvé, mais que tout le monde dit qu'il y a beaucoup de richesses et tout ça, qu'il y a plein d'or et des trucs comme ça, quoi. Bah, c'est tout ce que je sais. Et qu'il y a des indigènes et tout ça aussi, je crois.
La légende d'El Dorado, selon ce que m'a raconté, c'était une légende en rapport avec le lac de Guatavita, lac dans lequel était supposément caché tout un trésor rempli d'or. Ça, c'est la légende que je connais. Et ensuite, il s'agit d'une vieille tradition des peuples muiscas d'ici, des départements de Sud-Dinamarca et de Boyacá, quelque chose du style, de ce que je sais. Alors, des oublis, quelques confusions, mais surtout beaucoup d'ignorance. En effet, l'Eldorado ne fait pas l'unanimité, et en réalité, très peu savent vraiment ce dont il s'agit. Lorsque les colons arrivent en Amérique, ils pensent avoir trouvé les Indes. Et ils se lancent alors dans la recherche des fameuses cités d'or que Marco Polo décrivait et qui correspondaient en fait aux pagodes au toit d'or de Birmanie. Tous pensent alors à l'époque que cette terre promise dégorge d'or et de richesses.
Mais en réalité, tout commence en 1536, date à laquelle le mythe d'Eldorado apparaît dans la région de Bogota. Cette année-là, les conquistadors espagnols entendent parler d'une cérémonie prometteuse. Il s'agit de la cérémonie du chef des Muisca dans la contrée du lac de Guatavita. Chaque année, le chef de la tribu se couvrait de poussière d'or avant de se rendre au centre du lac et de laisser les rayons du soleil se refléter sur sa peau, pendant que son peuple jetait des objets d'or à l'eau en guise d'offrande au dieu du soleil. Les Espagnols se sont alors mis à imaginer des villages entiers couverts d'or. Et le mythe a rapidement été relayé de bouche à oreille jusqu'au continent européen. Ces rumeurs ont conquis les plus pauvres des navigateurs de l'époque qui se rendirent en Colombie avec un objectif certain, celui de trouver l'Eldorado. Mais cette coutume et la légende qui en a découlé ont malheureusement fasciné pendant près de 4 siècles et provoqué une sanglante course au trésor. Pourtant, à la différence des colons, l'or à l'époque n'avait aucune valeur monétaire pour les Indiens. Elle avait seulement une valeur spirituelle. Alors, les Espagnols n'ont jamais trouvé la richesse qu'ils espéraient et le mythe de l'Eldorado est resté à l'état de mythe. Le mythe et l'espoir de ceux qui n'ont rien.
Merci à Camille Bouju pour son troisième ou quatrième, je ne sais plus, très bon reportage, toujours de si bonne qualité. Elle fait partie, je pense, des reporters les plus assidus de l'émission, et si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ses autres reportages, notamment sur la corruption en Colombie, eh bien je vous invite à aller écouter les replays des émissions précédentes sur le site de la radio cause-commune.fm. Nous allons partir de l'Amérique latine, au moins le temps d'un reportage, pour rejoindre Noah Moulinet à Tel Aviv, qui nous montre de l'intérieur ce qu'est une vie cachère. C'est un reportage à consonance religieuse, alors attention aux plus laïcs d'entre nous, vous pourriez être heurté, mais tendez plutôt l'oreille et écoutez par curiosité culturelle. Noah Moulinet à Tel Aviv pour Cause Commune.
Vendredi midi. Le soleil brille sur Tel Aviv. L'occasion pour moi d'aller faire quelques courses au Chouk HaKarmel, juste à côté de mon appartement dans le sud de la ville. Je suis arrivée ici début octobre, et trouver ma coloc n'a pas été de tout repos. Par chance, je suis tombée sur cet appart. Bon, il faut avouer qu'au départ, j'étais pas vraiment enthousiaste. Deux colocs françaises, pas terrible pour progresser en anglais. Obligation de garder l'appart cachère, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ok, j'avais entendu parler de l'interdiction de manger du porc, comme tout le monde, mais ça n'allait franchement pas plus loin. Mais l'appart était chouette, mes futurs colocs sympas, et pour tout dire, après plus d'une dizaine de visites, j'avais plus la possibilité de faire la fine bouche. Deux mois après, aucun regret. J'améliore pas vraiment mon anglais en rentrant à la maison le soir, mais au moins j'en apprends beaucoup sur la religion de mon pays d'adoption. Parce qu'au final, vivre cachère, c'est pas seulement éviter le porc. À la maison, on a deux jeux de vaisselle, deux casseroles, deux couverts, une pour tous les aliments à base de lait, une autre pour tous ceux qui contiennent de la viande. Et interdiction de les mélanger, bien sûr. Même si, je cite ma coloc, si tu veux te faire un bon gros cheeseburger, tu le manges dans une assiette en plastique et tu la jettes après, aucun problème. Ok, ça semble pas trop difficile à respecter. On a aussi deux éponges différentes pour faire la vaisselle. Et bien sûr, pas de porc, de crevettes ou autres poissons sans écailles. Fille de poissonnier, la situation est quand même assez drôle pour moi. Donc après deux mois ici, je peux dire, rien à signaler. On s'y habitue vite et de toute façon, même si je voulais, j'aurais du mal à trouver du jambon en Israël. Autre tradition ici, le Shabbat. En gros, pour vous expliquer la chose, je vais laisser parler Raph, le copain de ma colocataire, français arrivé en Israël il y a plusieurs années.
Le fondement du jour de Shabbat est le repos. Shabbat est surtout une occasion d'enfin se retrouver en famille. C'est aussi un jour où on peut se retrouver pour prier à la synagogue tous ensemble. Personnellement, je fais partie de ce qu'on appelle les traditionalistes. En France, particulièrement, il y a des juifs qui ne sont pas très religieux, mais en revanche qui respectent le Shabbat ou alors qui font le kiddush le vendredi soir. Et on appelle ça des traditionalistes.
Donc, pour vous faire le topo de mon point de vue, Shabbat, c'est environ 24 heures où l'on se repose et où on mange beaucoup aussi. Pour moi, le repas de Shabbat le vendredi soir, c'est l'équivalent de celui de Noël pour nous. Oui, oui, vous avez bien entendu. On oublie le régime. Pour ceux qui observent plus la religion, comme Johanna, mon autre colocataire, à Shabbat, pas d'action sur l'électricité. Ça veut dire pas de téléphone, de plaque électrique, d'interrupteur ou encore d'ordi. Ah oui aussi, on ne cuisine pas et on ne dépense pas d'argent. Dur à imaginer, vous trouvez pas? En fait, tout le concept de Shabbat, c'est de ne pas transformer ou créer quelque chose. Donc le vendredi matin, au chouk, c'est toujours la foule. Tout le monde se presse pour faire ses derniers achats avant de rentrer dans Shabbat, et les commerçants bradent leurs produits avant de fermer pour un jour et demi. Juste avant que le soleil ne se couche, dans ma cuisine, c'est l'effervescence. On prépare tous les plats, j'apprends à faire des ralotes, sorte de pain au sésame traditionnel. On branche le koumkoum, qui est une sorte de bouilloire qui garde l'eau chaude pendant toute la durée du Shabbat. Et la plata, même concept mais pour les aliments. Donc, on arrive au moment tant attendu du repas de Shabbat. Mais avant de manger, patience. Il y a plusieurs prières rituelles. Donc celle du kiddouche pour bénir le vin, suite à laquelle tout le monde en boit une gorgée. Puis celle pour se laver les mains avant de manger le pain. Puis finalement, la prière du pain. Et enfin, on mange. Vraiment pas mal ce concept de repas de fête tous les vendredis soirs. Je vous laisse avec la prière du kiddouche. Shabbat shalom!
השישי ואכלו שם בארץ וכל צבם ויחר אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי כדי שאותו כיבוש שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות צברי מרנן ברוך אתה אדוני בורי פרי הגפן ברוך אתה אדוני למלוך העולם אשר קידשנו מזבות עבירה זבנו ושבת קודשו ומנדחות נחלנו זכרון להסביר ראשית תחילה למקרי קודש, זכר ליציאת מצרים, ושבת קודשך, ואבא ברכת תחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת.
אמן, אמן.
Et nous finissons donc ce reportage sur une note spirituelle. Et nous remercions Noah Moulinet pour ce très bon travail. Tout de suite, nous allons marquer la seule et unique pause musicale de cette émission, puisque nous n'avons que 3 reportages cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez Wolfpack. On ne les entend pas vraiment à la radio en France, et ils méritent très clairement. Ils mériteraient très clairement d'être écoutés davantage, d'autant plus qu'ils ont sorti un nouvel album récemment, le 7 décembre. C'est un groupe américain, de funk plutôt. L'album s'appelle Hill Climber et nous allons écouter Love is a Beautiful Thing parce que la Casa de Babel c'est avant tout de l'amour et la transmission de l'amour, rien que de l'amour.
Beautiful thing, and on your hand I see that there's a
Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm, partout ailleurs. Vous venez d'écouter Love is a Beautiful Thing, un morceau extrait du nouvel album de Wolfpack, Hill Climber. Nous nous étions laissés sur un reportage en Israël, à Tel Aviv, et nous allons maintenant repartir de l'autre côté du globe pour aller en Amérique latine. Nous allons en Argentine, à Buenos Aires, où Zoé Boahom a voulu nous rendre compte de la Marea Verde, cette grande manifestation en faveur de l'avortement qui a eu lieu et qui depuis a suscité un espoir dans cette société encore profondément conservatrice. Zoé Boahom, pour Cause Commune.
C'était le 8 août dernier à Buenos Aires. Une marée verte s'est emparée des rues de la capitale argentine. Des milliers de femmes, de tout âge, marchant main dans la main dans des rues remplies par leur présence. Des paillettes, des tambours, des sourires, des chants. Elles abordent ces foulards verts emblématiques maintenant. Ils sont le symbole de la campagne pour le droit à l'avortement légal, sécurisé et gratuit. Il est inscrit. Éducation sexuelle pour décider. Contraceptif pour ne pas avorter. Avortement légal pour ne pas mourir. Ni una menos. Pas une de moins. C'est le nom du mouvement qui, en 2015, commençait à agiter l'Amérique latine, dénonçant les féminicides à répétition. 225 femmes tuées en 2018 en Argentine par un homme. C'est une femme toutes les 32 heures. Pas une de moins. Ce n'est pas possible avec ces femmes décédées à la suite d'un avortement clandestin. En 2016, c'était 43 femmes enregistrées officiellement. Et c'est environ 450 000 femmes chaque année qui ont recours à cette pratique. À l'aide de pilules achetées clandestinement, d'ustensiles de cuisine, de cintres, mettant ainsi en danger leur santé physique et mentale. En Argentine, l'avortement est en théorie légal dans deux cas de figure. Dans le cas où la vie de la mère est en danger, ou si la grossesse est le fruit d'un viol. Pourtant, en pratique, il y a toujours des provinces qui ne respectent pas cette loi. L'année 2018 a été historique, fruit d'un long travail de la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal, sécurisé et gratuit. Si le 14 juin 2018, la Chambre des députés a finalement approuvé le projet de loi d'interruption volontaire de grossesse, le 8 août, le Sénat a rejeté le projet de loi. Entre-temps, Gabrielle Michetti, la vice-présidente, avait déclaré qu'elle ne permettrait pas l'avortement même en cas de viol, et qu'il y a des situations beaucoup plus dramatiques. Dans ce pays très catholique où l'Église n'est pas séparée de l'État, les opposants au droit à l'avortement défendent de sauver les deux vies, celle de la mère et celle de l'embryon.
Qu'en est-il 4 mois plus tard?
Les foulards verts n'ont pas disparu des sacs à dos des adolescentes, et l'espoir est toujours là. J'ai rencontré Camila, militante féministe de 21 ans.
Mais nous, on l'a déjà gagné. Parce que quand tu vas dans une manifestation de l'avortement, quand tu vas dans le bus ou dans le métro, celle que tu vois avec le foulard vert, c'est des filles de 14, 15, 17 ans. Et elles sont à des années-lumière de ces sénateurs. Elles sont super avancées. Et l'avortement, il va être légal. Peut-être qu'il sera légal dans 2 ans, dans 5 ans, ou peut-être dans 20 ans. Mais on est sûr qu'il va être légal, parce qu'il y a un grand changement culturel dans la jeunesse.
Camila fait aussi de la prévention dans les bidonvilles. Elle nous explique que le gouvernement se doit de prendre ses responsabilités en amont.
L'État doit fournir des contraceptifs dans tous les zones de santé du pays. Mais le financement de ce programme a été énormément réduit. Et par exemple, il y a des femmes qui vont chercher des pilules contraceptives. Et il y a des mois où il y en a, et il y a des mois non. J'ai le cas d'une femme qui me disait « Non, mais la pilule contraceptive, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai 3 enfants. » Et en fait, chaque fois qu'elle avait une relation sexuelle, elle prenait la pilule. Si elle n'avait pas de relation sexuelle pendant une semaine, elle ne la prenait pas pendant une semaine. Parce qu'il n'y a pas un seul médecin qui lui a expliqué comment la prendre. L'État a échoué dans l'éducation sexuelle. Prévenir, sensibiliser, mais aussi libérer la parole, c'est le projet de la Urna Verde. L'urne verte déposée devant le Congrès le 8 août dernier,
où des centaines de témoignages ont été déposés. Parce que la clandestinité nous rend honteux, nous fait souffrir et nous enferme, nous proposons de libérer collectivement la douleur par les mots. C'est ce qu'ont relayé 11 artistes, avec 12 témoignages frappants de personnes ayant vécu de près ou de loin des situations d'avortement clandestin. C'était ce lundi, lors d'une exposition. Il y a une musique en fond de cette exposition, car jusque-là nous faisons attention à qu'il n'y ait pas de son clandestin. Le son de la clandestinité, c'est le silence, le murmure.
Merci à Zoé Boahom pour ce superbe reportage. Eh bien, nous arrivons au terme de ce numéro. C'est l'occasion pour moi de vous dire plusieurs choses. D'abord, de vous remercier de nous avoir écoutés depuis octobre. Nous allons marquer un arrêt d'un mois dans l'émission. Nous reviendrons le 19 janvier pour la simple et bonne raison que nos reporters sont en vacances et donc reviennent en France pour beaucoup, ou alors voyagent, mais laissent leur dictaphone de côté. Donc merci de nous avoir écoutés et puis rendez-vous en janvier 2019 pour de nouveaux numéros. Je sais que vous l'attendez impatiemment. C'est le moment aussi de dire que non seulement moi, mais toute l'équipe de la Casa des Babel, de Cause Commune, est solidaire de la population strasbourgeoise suite aux tristes événements qui ont eu lieu récemment dans la ville, et aussi pour dire que depuis l'étranger, nous suivons, ou en tout cas je suis, les Gilets jaunes avec beaucoup d'intérêt, et la vie du pays n'est pas prête de cesser malgré cette attaque sur Strasbourg. Je vous souhaite évidemment pour finir eh bien, de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt sur Cause Commune.